Ça vous arrive de vous mettre en colère? J'y pense étrangement en revoyant défiler la journée d'hier. Et vous me connaissez, moi. J'ai l'air tout doux comme ça, très poli, bien élevé, gentil, tout ce que vous voulez. Mais comme tout le monde, il arrive que ça coince un peu. C'est d'abord dans mon ventre, vous savez, c'est presque rien. C'est une petite phrase qui m'est lancée. Tiens, ce matin, par exemple, un invité que j'entends dans une émission de radio, ou alors ce que décide de montrer la télé, plutôt qu'autre chose. Ça vous prend comme un tremblement, c'est un souffle plus court, c'est un afflux de sang. Il y a cette petite boule qui monte, vous savez, tout au long de votre corps, et elle monte, vous savez très bien que si elle arrive tout en haut, cette petite boule, ça va pas bien se passer parce que c'est déjà arrivé, et ça vous fait penser à d'autres petites choses débiles qui soudain prennent beaucoup d'importance, puis à la voix qui déraille un petit peu, qui est plus haute, qui est plus forte aussi, de plus en plus crispée, les gestes de moins en moins contrôlés. Tiens, par exemple, cette feuille devant moi là, ce stylo, même cet ordinateur, j'ai envie de les défoncer là maintenant. Les gens qui sont à côté de moi aussi, je m'en fous. Si ce sont mes invités, après tout, s'ils sont là, c'est qu'ils ont sans doute quelque chose à voir avec ça, et n'allez pas me dire que ça va pas ou que je dois aller me reposer, parce que je pense là tout de suite maintenant aux descriptions de Selby dans Le Démon, à Michael Douglas en Chute libre, à This is la peste qui pète les plombs, et quoi? Non, ça va pas du tout.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Qu'est-ce qui met mon invité en colère? Il est écrivain, auteur d'une œuvre volontiers énervée, mais aussi pleine d'empathie, qui se nourrit de l'air du temps, d'aujourd'hui, et dont les titres font souvent mouche après Fuck, Bonus, Kiff ou encore VIP. Son nouveau roman Vénère apparaît aujourd'hui même. L'histoire d'un quinca qui a perdu son emploi, sa femme et son sang-froid. C'est l'heure de la vengeance, quelque part entre le monologue malade, la chronique sociale et le slam grinçant. Bonjour Laurent Chalumeau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Eh bien écoutez, merci à vous de m'avoir, en dépit de votre humeur.
Ça vous arrive de vous mettre en colère, vous?
Tout le temps. Moi, je suis un bisounours contrarié. J'ai une capacité d'indignation qui est aussi illimitée que stérile. Et je fais du anger management en permanence. J'ai trouvé sur Twitter à la fois un remède et un facteur aggravant de ma névrose. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux me défouler. Je suis pas Mehdi Mekhlat, mais je peux avoir parfois le verbe un peu outré. Et donc, ça me défoule. Et en même temps, c'est un gisement infini de motifs de se consterner et de s'atterrir.
Et de pétage de plomb aussi, de vénère, pour reprendre le titre de votre roman.
Je suis pas un gars qui casse les assiettes. Je suis pas un gars qui va provoquer les gens dans les troquets, ne serait-ce que parce que je suis d'une grande lâcheté physique. Mais mais en revanche, c'est vrai que en face de mon clavier et dans mon cas en plus, c'est pas de façon anonyme, ce qui fait la différence entre moi et ce qu'on appelle les trolls. Oui, c'est vrai que je laisse libre cours. Le problème, c'est après. Il faut savoir ne pas courir après tous les ballons. C'est-à-dire qu'il y a, il faut inventorier et savoir quels sont ces couloirs de nage. Il y a clairement des trucs sur lesquels je suis pas compétent. Je veux dire, par exemple, je peux penser des choses de la bande de Gaza, mais je vous les dirai jamais parce que le monde n'a pas besoin d'un avis supplémentaire, et en tout cas sûrement pas du mien, quoi.
Quels sont les ballons de votre personnage qui pètent les plombs littéralement dans Vénère, Laurent Chalumeau, qui se venge de tous ceux dont il pense qu'ils ont détruit sa vie, qui se venge donc précisément? Vous les avez définis, je suppose, les contours de ce personnage. Qui est-il exactement?
C'est un type dont la vie est tirée de sous ses pieds comme si c'était une sortie de bain ou un tapis persan. C'est-à-dire que c'est le représentant d'un monde, heureusement ou malheureusement, un peu en voie de disparition.
Un monde masculin.
Exactement. C'est-à-dire qu'il est mâle, il est blanc, il est quinca. Et il y a à l'évidence à titre personnel, j'espère, un nouveau contrat sexuel qui va se négocier, qui est peut-être en train de se négocier, mais il se négocie sans les hommes blancs de plus de 50 ans. Et singulièrement, ce personnage de décision, éditoriale, artistique, dramatique, que j'avais prise un an avant l'explosion de l'affaire Weinstein. J'entendais raconter des histoires de harcèlement sexuel au travail. Aussi curieux que ça puisse paraître aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était un sujet qui était complètement sous-documenté. Et sans penser une seconde que quelque chose que j'allais pouvoir écrire aurait la moindre incidence ou ferait avancer le schmilblick. Mais au moins, je m'étais dit que c'était du bon bois pour la chaudière.
On y pense tout le temps en lisant votre livre.
Oui, que c'était quelque chose de fort, de dynamique, de scandaleux.
Mais alors, de quel œil est-ce que vous avez regardé cette affaire Weinstein?
Alors, avec un mélange de consternation, d'excitation, puis de déception. Parce qu'en France, en tout cas, ça a fait pchit. Moi, je pensais vraiment qu'on allait nettoyer les écuries d'Augias avec éventuellement quelques dommages collatéraux. Mais bon, comme dirait l'autre, on fait pas la révolution sans casser quelques œufs. Mais ma seule satisfaction, elle ne m'honore pas parce qu'elle est pas glorieuse, mais je connais les noms de quelques personnes qui ont passé de mauvaises fêtes, comme on dit. Parce que il a fallu attendre le début de cette année pour que des gens qui commençaient à s'inquiéter sur leur réputation et même leur avenir pénal puissent se rassurer en se disant que non, le coup passa très près, le chapeau de certains est tombé, mais le vent ne l'a pas emporté, ils ont pu se recoiffer.
Mais au fond, Laurent Chalumeau, là c'est vraiment à l'écrivain que je m'adresse. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'exploration de la psyché masculine, dans ses contradictions, dans ses peurs, dans ses errements aujourd'hui?
C'est la conviction étayée au jour le jour et même heure par heure que tout ce qui ne va pas dans le monde, c'est de la faute des mecs. Ça me paraît flagrant.
C'est fort quand même. Hein.
Oui, mais alors après, on nuance. Mais fondamentalement, les faits divers atroces, les destructions, les pollutions, c'est toujours une histoire de sgeg, c'est toujours des mecs qui déballent leur rôti de porc pour une famille de 12 et qui font un concours de taille, de mensuration.
Alors ça pose des questions intéressantes en termes d'écriture. Impossible d'écrire ce livre sous l'angle féminin?
À partir du moment où mon amie que vous connaissez, Virginie Despentes, m'encourage, mais quand je dis qu'elle m'encourage, c'est qu'elle me casse les couilles, elle me fait une tête au carré pour que je m'enhardisse donner encore plus de place à mes personnages féminins. Mais tout le monde n'est pas Flaubert, c'est rien de le dire, et tout le monde ne peut pas dire Madame Bovary, c'est moi, ou Flaubert, ou Stephen Zweig. J'ai tellement été exaspéré, consterné par des livres écrits par, pour le coup, des quinquas, des sexas, même blancs, bourgeois, et qui écrivaient un livre à la première personne en se faisant passer pour une jeune fille de banlieue d'origine maghrébine. Et ça marchait pas. Je veux dire, il y a une école qui consiste à penser que l'écrivain a tous les droits, le romancier ne doit connaître aucune limite. Oui, ok, il connaît aucune limite dans l'absolu, mais après, il rencontre vite celle de son propre talent.
Alors, comment on fait pour rentrer précisément dans la tête du personnage, d'un tel personnage, mais aussi et surtout dans sa langue? Quel travail est-ce
voilà
que c'est?
Pour le coup, même si moi, mon biotope socio-culturel n'est pas le même que celui du personnage, il est plus lumpen prolétariat que moi. Moi, je suis plus bobo, de moins en moins bohème, enfin bourgeois, de moins en moins bohème. J'en ai croisé des wagonnés, des gars comme lui.
Comment il parle?
Il parle comme je peux aimer entendre parler, c'est-à-dire qu'il parle, il parle à la fois mal et bien, c'est-à-dire qu'il va faire des fautes de français et en même temps, il va y avoir une énergie, je pense, hein, un dynamisme dans la façon dont il maltraite la langue, parce que de toute façon, il est tellement à vif, c'est tellement un cri du cœur que oui, ça va swinguer. Moi, j'ai toujours aimé la gouaille, j'ai toujours aimé le français qui se parle ailleurs qu'à l'académie, et en même temps, à côté de ça, j'ai aussi une direction pour la pédanterie et la langue ornée. Donc voilà, je croise les deux.
Celle qui gouaille plus qu'elle est ornée dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, c'est la culture, Laurent, et son actualité qui ressasse, rumine et radote sans interruption. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 2 mai?
Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre.
Elle est où, cette vache?
Ça va.
Petit paysan, grand succès après avoir raflé pas moins de 3 Césars, dont celui du meilleur premier film. Le long métrage de Hubert Charvel a reçu hier le prix du public en clôture du festival du film français de Kolkoa à Los Angeles. Parmi les autres œuvres primées par les Américains, on trouve Le Brio d'Yvan Attal qui repart avec le prix de la critique, ou Luna de la jeune Elsa Duringer, prix du meilleur premier film, Cocori Film. L'Opéra de Paris enchaîne les fausses notes. L'institution parisienne qui fête ses 350 ans multiplie les couacs et les déboires. Hier, on a appris l'annulation de 10 spectacles prévus à Bastille et la fermeture des lieux jusqu'au 13 mai à cause d'un incident technique, un pépin qui fait suite à l'annulation de la tournée américaine du Ballet de l'Opéra faute de moyens suffisants et la crise interne provoquée par les révélations de harcèlement faites le mois dernier et des virulentes critiques visant sa directrice de la danse. Pression.
I like reality and I like the future. It's just about the idea.
Ablo Abloch, le nouveau directeur artistique de Louis Vuitton, Virgil Abloh, vient de révéler les prototypes de sa collaboration événement avec IKEA au programme des tapis street, des coussins choc, un meuble stylé pour exposer ses baskets préférées comme des œuvres d'art. L'année dernière, le designer américain avait déjà cassé l'internet en revisitant l'iconique Kaba fourre-tout de la marque suédoise. Et vendredi de colère, on se détend sur grand écran, car aujourd'hui, dans les salles obscures, on s'échauffe devant MILF, la comédie tonique d'Axel Lafon. On choisit la poésie avec Takara, La nuit où j'ai nagé, l'épopée nippone délicate, enneigée, signée Damien Manivelle et Koei Igarashi. Et sinon, on prend l'air avec Cornelius, le meunier hurlant, la fable burlesque et très élégante de Yann Lekelec, avec l'irradiante Anaïs de Moustier, qui était notre invitée vendredi dernier. Oh yeah! Et Laurent Chalumeau, invité de Boomerang ce matin pour son livre Vénère en trois lettres. Est-ce que vous avez conscient quand même, Laurent, que certains et certaines vont avoir du mal à comprendre qu'il s'agit d'une abréviation? Je pense à ma mère Catherine, qui n'aura pas lu le même livre. En fait, elle aura lu VNR ou VNR.
Alors, je vais vous raconter un truc qui date de ce matin. Hier soir, je reçois un mail de l'excellent Michel Zinc, grand médiéviste que le monde nous envie récemment reçu à l'Académie française. Il collectionnait déjà tous les titres et honneurs possibles et imaginables. Il ne lui manquait que celui-là. Et ce délicieux septuagénaire m'envoie un mail pour me dire tout le plaisir qu'il a pris à la lecture de Vénère. Et en fin de mail, il me demande « Mais mon cher Laurent, je ne sais toujours pas ce que veut dire Vénère. » Et donc je lui réponds « Bah écoutez, c'est énervé. En verlan. Et ce matin, je trouve un mail de réponse très laconique qui résume tout ce qu'il y a de facétieux et de délicieux dans le personnage. Il me dit non seulement c'est du verlan, mais c'est un euphémisme.
À quel moment est-ce que vous posez la question du titre?
Très vite. Très vite. Et sur celui-là, j'ai ramé. Parce qu'on avait du mal à se mettre d'accord avec mes interlocuteurs chez Grasset. J'ai passé l'âge d'avoir raison tout seul. Donc comme ce sont des gens qui vont devoir, chacun à leur poste, essayer d'être convaincants, il faut que leur conviction soit sincère.
Et qu'est-ce que c'est un bon titre pour vous? Parce qu'on voit qu'il y a une identité ici, après fuck, topodoco, bonus, kiff ou VIP.
C'est-à-dire que moi je suis très admiratif, c'est rien de le dire, c'est un euphémisme, du travail et de la patte d'un écrivain américain qui s'appelle Elmore Leonard, et il avait la coquetterie des titres très très courts. Donc oui. Voilà, j'ai un peu... mais par exemple, fuck, dont l'écriture s'est étalée sur 4 ans.
Votre premier roman.
Je n'ai trouvé le titre qu'à la toute fin. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures à trouver le bon titre. La survénère, et à un moment donné, que les lecteurs éventuels sachent à quoi ils ont échappé, ça, dans mon esprit, ça a failli s'appeler Nuit de terreur au ranch des Trois Vengeances. Et il y a des... ce qui, personnellement, m'aurait ravi. Mais il y a des gens chez Grasset, sans doute bien inspirés, qui ont manifesté toute leur circonspection.
En tout cas, tout est affaire de mots, Laurent Chalumeau, et particulièrement dans ce livre. J'aimerais qu'on les entende, les mots de votre personnage, sa langue dont on parlait tout à l'heure. Voilà ce que dit ce personnage à l'homme politique responsable de la délocalisation de l'usine de sa ville et à qui il s'apprête à régler son compte. Je vais prévenir les auditeurs, c'est très énervé, c'est même carrément vénère. Mais mon pote, t'es l'État français, tu fais un bras de fer avec tous ces enculés, qu'est-ce qui te fait dire que tu vas pas perdre? Tu leur dis, voilà, on est la 6e puissance mondiale, on représente tant de business pour toi, tes clients ils sont là, les savoir-faire ils sont là, donc maintenant tu vas arrêter, tu vas payer tes impôts en France, là où tu fais ton beurre, tu vas employer des Français, tu vas les payer correctement, sinon, si tu pars en mode chantage, je délocalise, je mets mon siège en Irlande et tout. Ben d'accord, vas-y, mais nous, on s'appelle la République française, on va te mettre la misère, on va te mettre à genoux, et tu vas ramper comme une merde, que tu t'appelles Arnaud, Pinault, Amazon ou Google, on va te niquer tes morts, parce qu'on va mettre tous les services de l'État à expliquer que t'es qu'une pute, un traître, un profiteur, on va te salir ton nom, on va crever les pneus de ta mobilette, enculé, on va rayer la portière de ta Rolls, on va te pisser dans la soupe à l'échelle d'une nation, tu veux jouer au con, gros pourri, on est l'État français, on va te briser, donc non, l'usine là t'y touche pas, et tu sais quoi, même mieux. Les ouvriers, non seulement tu vas pas les licencier, mais tu vas les augmenter. Voilà comment il faut leur parler aux actionnaires teutons, espèce de petite merde. Voilà. Dans quel état vous étiez, Laurent, quand vous avez écrit ce texte? Moi, ça m'interroge.
Je devais avoir atteint un point de method acting, enfin oui, d'identification au personnage assez abouti, vous savez, d'être
comme un acteur,
comme font les comédiens. Oui, c'est ça, on se met dans les rails. On se dit voilà, je suis chômeur en fin de droit. J'ai en face de moi un gars qui est venu faire des grimaces en se coiffant d'un casque de chantier pour le plaisir des caméras et des micros qu'on lui tendait, et puis qui retournait sous les ordres de la République et les dîners en ville des milieux qui s'autorisent. Donc même avec une espèce de populisme ou de démagogie ou d'anarcho-syndicalisme hystérique dévoyé mais assumé, parce que c'est je me mets dans la peau du personnage et tous ces filtres sont pulvérisés.
Étonnant que vous parliez d'acting, d'acteur ici. Il est question d'empathie. On le voit bien ici dans votre écriture. Ça dit quelque chose du rôle que peut être celui de l'écrivain, non ? Mettre dans la peau de l'autre.
Oui, enfin, à force de refuser le statut de l'écrivain avec un grand H ou un E minuscule finit chez moi par être une coquetterie qu'il faudrait que j'interroge, parce que c'est vrai que je me suis toujours méfié de l'appellation pour ne pas relever de la juridiction justement des arbitres des élégances littéraires. Je préfère passer sous les radars. C'est d'où mon goût plus ou moins affiché de projet en projet.
Ça ne vous empêche pas d'avoir une identité.
Certes, mais je m'envisage, ça, je m'envisage pas de rôle. Vous savez, un sergent recruteur aussi dynamique que Jean-Paul Sartre lui-même, qui parlait de s'engager. Vous verrez du pays. engagez-vous à tout bout de champ. Même lui, comme vous savez, a un jour demandé que peut la littérature pour un enfant qui meurt, et même lui était obligé d'admettre pas grand-chose. Et à la fois plein, mais on se met pas à sa table de travail en disant tiens aujourd'hui je vais soigner le cancer. On se dit je me mets à ma table de travail parce qu'aujourd'hui je vais essayer d'alléger la boule que j'ai au fond du bide.
C'est donc qu'il s'agit de colère là.
Oui, de colère et de peur aussi. Je racontais ça à une amie l'autre jour. Pendant longtemps, il y a une question que vous avez forcément déjà entendu poser, peut-être même poser vous-même, qui me paraissait être l'exemple même de la tarte à la crème et de tout ce qui ne va pas dans la façon dont la culture est envisagée. Cette question, c'est tarte en pion, c'est une question très Jacques Chancel, paix à ses cendres. Tarte en pion, pourquoi écrivez-vous ? Et je trouvais que c'était la question Télérama, cuculapraline typique, et le simple fait de la poser ou d'y répondre était pour moi un facteur aggravant et disqualifiant pour celui qui la posait et celui qui répondait. Et puis un jour, en interview, il y a 2-3 ans, quelqu'un me la pose et je me sens traversé par une voix qui est la mienne, mais je m'entends répondre sans l'avoir décidé. Je réponds avec vigueur. Le gars me dit « Pourquoi écrivez-vous ?» Je lui dis « Parce que la vie me fait peur », mais presque en lui criant dessus. Et j'avais déjà, je sais pas, 56, 55 ans, parce que la vie me fait peur. Et donc, en fait, j'écris parce que la vie m'a toujours fait peur et parce que très vite, j'ai identifié que les artistes et dans une moindre mesure, les journalistes, parce que être journaliste, ça peut être un bon stage de formation emploi pour devenir artiste. J'avais identifié que les artistes étaient des gens qu'on dispensait de certaines vicissitudes dans le monde réel. Et souvent, on dit, même de façon péjorative, les gens disent « Oh bah oui, non mais lui, c'est un artiste ». Autrement dit, « Oui, bon, c'est pas grave, on laisse pisser le mérinos ». Et donc, cette espèce d'exemption à aller affronter le monde réel pour de vrai à main nue m'intéressait. Et si vous permettez, il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est plus court, je vous rassure. Le paradoxe, c'est que les artistes ont aussi la possibilité, le temps que dure le moment où ils pratiquent leur artisanat, ils ont la possibilité de repeindre le monde tel qu'ils aimeraient qu'il soit. C'est-à-dire que moi, pour moi, écrire des livres, mes livres, c'est des endroits où pendant quelques pages, la demoiselle en détresse sera sauvée in extremis, ce qui n'arrive pas toujours dans la vie. Quoi.
N'empêche, Laurent Jalumeau, en vous écoutant répondre à cette question très chancelienne, je me dis que c'est une belle question et que je vais la rayer de mon conducteur parce qu'elle venait plus tard. Je vais vous faire plaisir, Laurent. Willie Nelson et sa belle chanson Crazy en 1962. Willie Nelson, qui vous a souhaité son anniversaire sur Twitter avant-hier.
85 ans et toutes ses dents.
Popularisé par Patsy Cline, qui n'a pas l'air vénère, cette chanson chantée par lui, mais qui colle pas mal à votre livre, je trouve, France Inter. Laurent Chalumeau, Boomerang, mercredi.
I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. I knew that you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Bon, rassurez-vous, il a l'air ni fou ni crazy, enfin pas plus que la moyenne, pas plus que moi, pas plus que vous. Il n'y a rien qui cloche, rien qui dépasse, rien qui donne envie de prendre ses jambes à son cou. Et quelque part entre une version assagie du rocker à mèche, Vernon Subutex, et Maître Hibou, figurez-vous, avec ses sourcils constamment froncés, ses lunettes noires, son regard un brin embrumé, sa petite distance aussi d'esthète, de timide aussi, avec sa chemise de cow-boy aujourd'hui avec des boutons pression et son jean évidemment. L'écrivain Laurent Chalumeau, invité de Boomerang pour Vénère, livre sur la vengeance d'un homme ordinaire. Et ce qu'il faut absolument dire, Laurent, c'est que malgré la noirceur du propos et des thèmes abordés, certains passages sont quand même d'un humour absolument décapant. Qu'est-ce que vous trouvez drôle, vous ? Je me suis demandé.
Très rarement ce qui est prévu pour. C'est même un problème parce que je suis très mauvais client pour les comédies conçues comme telles.
C'est un problème pour l'écrivain aussi, je suppose, parce que quand on écrit une scène de comédie, une scène drôle, on la prépare.
Moi, rien ne me fait tant rire que le sérieux. C'est-à-dire que le sérieux papal, quand il est poussé à l'extrême, très vite peut déboucher vers des... Les gens très assertifs, les gens convaincus.
Quand vous faites par exemple la logistique qui précède la traque et l'enlèvement des victimes, ça sont des moments comiques.
Mais alors c'est oui, c'est un autre registre de comique. Mais, c'est comment dire, c'est une inversion du sablier, c'est-à-dire que comme le dit d'ailleurs le personnage, il dit on ne pense qu'aux victimes. Dans un kidnapping, on ne pense qu'aux victimes. Jamais personne ne pense à récompenser, à accuser réception, à prendre acte de l'ingéniosité du kidnappeur. Et jamais personne ne se demande quelles sont les difficultés pratiques qu'il a fallu surmonter, ouais, quelles sont les solutions qu'il a fallu. Et donc le gars part dans ce délire, il dit mais moi j'ai pas fait kidnappeur en option au bac.
Et puis là j'ai pensé à tout un hommage aussi à une certaine littérature américaine où la filature est un lieu de jouissance aussi pour le lecteur. Je me trompe, Laurent Chalumeau?
C'est-à-dire que c'est la reproduction, alors c'est un peu je veux pas dire mise en abîme, mais je viens de le dire, où c'est un peu comme l'emballage d'une portion de vache qui rit. C'est-à-dire que c'est un gars qui va chercher à reproduire. Alors, on est dans une fiction, clairement, mais dans cette fiction, il y a un gars supposé réel qui va faire de son mieux pour introduire dans sa fausse réalité des éléments qu'il va piocher dans la fiction, et il s'aperçoit, comme de juste, que si la vie imite l'art, en revanche, la fiction dépasse beaucoup plus rarement qu'on ne le croit la réalité. Et donc, de s'improviser comme ça, du jour au lendemain, kidnappeur, tortionnaire, c'est compliqué. Et donc, c'est ce cheminement-là qui me paraissait être un bon moyen de fabriquer du récit. De se poser des questions toutes bêtes. Si je veux demain kidnapper, ce qu'à Dieu ne plaise, mais si je voulais kidnapper Augustin Trapenard,
éviter.
Il faut que je trouve des solutions parce que tout le monde connaît sa tronche, donc il est rarement seul dans ses déplacements. J'en sais rien. Donc il va falloir que je le prenne en filature. Enfin, je n'ai pas vraiment réfléchi à la question, je vous rassure. C'est un projet que je ne mettrais pas en exécution.
J'ai un petit doute.
Mais si je devais m'y coller, je suis sûr que ça fabriquerait du récit.
Il y a 20 ans, en préambule de Uptown, vous écriviez « Je suis artisan ». Gagman, dialoguiste additionnel, adaptateur madré, bidouilleur, couteau suisse contrefait, plume mercenaire, écrivain public, polygraphe vendu, je travaille pour l'industrie du divertissement, la littérature, je l'encule, bonne lecture. Qu'est-ce que ça voulait dire, Laurent Chalumeau, enculer la littérature ?
C'était comme un homard m'a tué ou ou je sais pas
avec la faute de langue en bonus. C'est ça.
Non mais c'était pour clore la tirade, mais c'est vrai que j'ai fait des études de lettres un peu poussées comme vous, et j'ai été confronté à des dindons, à des pans, à des petits marquis autoproclamés des lettres.
Ça voulait dire la désacraliser, alors.
Voilà.
La
et je me souviens, je m'étais fait la promesse solennelle de ne jamais ressembler à ça. Alors, comme chacun sait, l'homme n'est ni ange ni bête, et qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire qu'à trop vouloir, justement, ne pas ressembler à un écrivain et à refuser le statut, en fait, ça finit par être une coquetterie. Je ne m'en suis avisé que récemment, et donc maintenant, je suis un peu moins, je minaude un peu moins à ce propos. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, c'est vrai, ça fait 40 ans que j'écris professionnellement. Quoi qu'on mettre dans le mot, je suis écrivain.
Avec toujours cette idée quand même de bousculer, et de bousculer non seulement l'institution qu'est la littérature, mais aussi le lecteur, parce qu'après tout, quand même, il faut le dire, ce tutoiement qui est dans votre livre, partout, il s'adresse aux séquestrés, mais on se le prend aussi dans la face, Laurent Chalumeau, il s'adresse au lecteur.
Bah, le lecteur, c'est quelqu'un, et là, c'est le lecteur qui parle, je sais que moi, en tant que lecteur, j'aime être manipulé, éventuellement brutalisé, mais pas trop fort, caressé parfois, mais j'aime être pris en charge. Et effectivement, c'est un truc entre adultes consentants, la lecture. C'est le fameux pacte narratif afghan.
Et si votre livre, d'ailleurs, ne parlait que de ça, de domination, de soumission et de consentement ?
Ah, de consentement, oui,
y
certainement.
Y compris littéraire.
Ah, ben, là, pour le coup, j'ai pas de réponse intelligente, mais ça m'a l'air bien. Non, mais franchement, je avec l'esprit de l'escalier, je vous enverrai un texto tout à l'heure en disant « Merde, j'aurais dû dire ça !» Mais le consentement, oui, clairement. Parce que le consentement, c'est l'un des enjeux capitaux de notre époque et de notre société. Enfin, et pas seulement, d'ailleurs, en société occidentale. Si on réglait l'histoire du consentement, il y a plein de trucs qui iraient mieux.
Merci.
Ou moins mal.
Laurent Chalumeau, d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour tous ces éclairages. Merci pour ce livre aussi. Je rappelle que Vénère sort aujourd'hui et que c'est non seulement très bien écrit, extrêmement divertissant, formidablement intelligent. C'est un livre que j'aime beaucoup. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Liminanas avec Bertrand Belin sur France Inter. Ça s'appelle Dimanche, mais on est mercredi.